Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flageul.
Bonsoir. Nous sommes encore ensemble ce soir dans nos lectures en liberté pour la suite du roman de Jean-Claude Izot, Les marins perdus. Ça péta sur la mer d'abord, puis sur la ville ensuite. Un orage violent, comme il en éclate seulement deux ou trois fois l'an. Chaque fois que l'horizon s'embrasait d'éclairs bleus et verts, le château d'If et les îles du Frioul surgissaient de la nuit. Le tonnerre suivait quelques minutes après, non pas un roulement tel qu'on a l'habitude d'entendre, mais un claquement à tout rompre, sec, froid, métallique. L'Aldébaran se mit à tanguer. Sa coque semblait prête à se tordre. La pluie suivit. D'énormes gouttes dures, presque de la grêle. On aurait dit que le cargo essuyait un feu de mitraille. Au premier coup de tonnerre, Diamantis avait fait un bond sur sa couchette. Il avait eu du mal à trouver le sommeil à cause de la chaleur. Sa cabine, si on pouvait appeler comme ça son réduit, était une étuve. Il s'était mis à poil sur son couchage, mais même ainsi, il ruisselait de sueur. Et quand il ne dormait pas, il pensait. Ou plutôt, les pensées les plus diverses assaillaient son esprit, tournaient en rond dans sa tête pour devenir des idées noires. De plus en plus souvent, depuis qu'il était coincé ici, il se réveillait même la nuit. Aujourd'hui, l'orage s'en était chargé. De son hublot, il assistait maintenant au spectacle. Sa cabine, à bâbord, faisait face au large. Il s'imagina en haute mer. Non pas à bord de l'Aldébaran, mais sur un autre navire. Le Maris Stella, un gros caboteur. Sa route était la route de la navigation classique en Méditerranée. On chargeait et déchargeait à chaque port. Diamantis avait remplacé au pied levé Michaelis, un vieil ami dont la femme allait accoucher. « Je ne peux pas t'empêcher d'être marin », il avait dit avant qu'il ne se marie, « mais si tu veux que je te fasse un enfant, arrête de partir si longtemps. » Michaelis n'avait pas hésité. Il venait d'avoir 50 ans. Angela avait 20 ans de moins que lui et elle était vraiment très jolie. Avec le mari Stella, Michaelis pouvait être chez lui tous les 15 jours. Cette nuit-là, en fin janvier, le Maris Stella venait de quitter Limassol, à Chypre, pour Beyrouth. Ils s'attendaient à un gros grain. Ils eurent pire. Une tempête comme la Méditerranée en réserve parfois. Contrairement à ce que l'on croit, cette mer n'est pas une mer tranquille. Elle est par excellence une mer à coups de tabac. Le Maris Stella avait 35 ans d'âge, à la proue et à la poupe, 6 de moins au milieu. Il avait été élargi afin de recevoir de plus grosses cargaisons. Vers 11 heures, les vents soufflèrent en rafale à 110 km/h et la crête des vagues monta à 8 mètres de haut. Le navire labourait la mer tant qu'il pouvait. Mais l'eau se mit à entrer par les écoutilles avant comme dans une passoire. Une heure plus tard, la mer commença à submerger la poupe alourdie et le navire donna de la bande. Koumi, le capitaine, parrain désigné de l'enfant de Michaelis et Angela, demanda à Diamantis « Tu connais une bonne prière ?» Il secoua la tête. « Les prières, tu sais, Alors dis aux radios d'appeler les gardes-côtes, on va abandonner le Marie Stella. » C'était un ordre, il n'était pas à discuter. Koumi connaissait parfaitement son navire, la Méditerranée et les tempêtes. Et il aimait la vie. Ils n'eurent jamais le temps de mettre le canot de sauvetage à la mer, le bateau chavira les emportant dans l'eau glacée. Au lever du jour, le Marie Stella gisait à 25 mètres de profondeur, emporté par ce que les gardes-côtes appellent l'effet dynamique d'une mer démontée. On eut beau poursuivre les recherches jusqu'à ce que la nuit retombe. Diamantis fut le seul survivant. Depuis, Diamantis était le parrain d'une mignonne petite fille de 5 ans, Anastasia, et il avait la trouille des tempêtes. Il enfila un caleçon, alluma une clope et alla dans la salle commune pour se servir une bière. Abdul le rejoignit. « Impossible de dormir, » grommela-t-il. « Bière ?» lui demanda Diamantis en lui tendant une canette. Et il lui raconta le drame du Marie Stella. « J'ai connu un type, » enchaîna Abdul, après l'avoir écouté, « un Irlandais, Colm Tóibín, quand je faisais l'Atlantique via les Açores. » Il aimait être sur la passerelle par gros temps. Il disait « Pouvez pas savoir les mecs, c'est impressionnant, quel spectacle, putain, cette mer énorme. Arrive toujours un moment où tu passes de la peur à la terreur. » Il aimait ça. Et il a été gâté. Parce qu'ensemble, on en a connu des sales moments. Chaque fois le calme revenu, il avouait en riant « Ouais, ben c'est pas encore ce coup-ci la grosse tempête que ce serait la dernière, hein ?» On lui répliquait « Peut-être bien que tu changerais d'avis. »« Peut-être bien, » il répondait. « Mais j'ai jamais encore vu ça, alors. » Et il l'a connu. Oh, il a fait naufrage à bord du Sealand Performance, un cargo qui faisait l'Europe du Nord. Mais par le grand cercle, le cargo s'est retrouvé dans la plus grosse tempête enregistrée ces 200 dernières années. « Oh, t'exagères. Ben, je le tiens de Colm lui-même, et je crois pas qu'il a exagéré. Nous nous étions retrouvés au Spray, à Gibraltar, un pur hasard. En 12 bières, il me l'a raconté, sa tempête. » On n'en a pas autant sous la main, mais on peut s'ouvrir les deux dernières. Peu importait que cela soit vrai ou non. L'un et l'autre savaient que les histoires de mer n'existent que lorsqu'on les raconte. Pas qu'elles aient été inventées, non, mais en les racontant, celui qui les a vécues tente de bloquer le sentiment même de ses peurs intérieures. En les racontant, il donnait une logique aux événements, un sens à ce qui est sa réalité quotidienne de marin. Abdulaziz et Diamantis n'étaient pas différents des autres. Chaque histoire de la vie à bord, et en priorité les tempêtes, était à prendre avec le plus grand sérieux, même si elle n'était pas forcément véridique. Et sans doute que le naufrage de Colm Tóibín n'avait pas été aussi terrible que ça, mais à cet instant, ils en étaient convaincus. Le capitaine, il m'a raconté, 52 heures il est resté sur la passerelle, rien que pour tenter de sauver le navire. Il prenait de la vitesse dans les crues, ralentissait face aux crêtes pour ne pas éprouver trop durement la coque. Un vrai bond, quoi. Et alors ? Colm, ce soir-là, il était de vigie sur la passerelle. C'est là qu'il avait voulu être. Il y tenait. Et personne ne lui avait disputé la place. Putain, je veux bien le croire. Oui, mais... C'est là qu'il a commencé à faire dans son froc. Parce que la passerelle était submergée à une bonne trentaine de mètres au-dessus des eaux. Les vagues avaient arraché le mât et une grue de 45 tonnes gisait sur le pont. Elle faisait bélier contre le kiosque du deuxième pont complètement démoli. Il a paniqué, mais faut croire. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'à un moment, il s'est retrouvé le cul par terre. Il a glissé sur le dos dans la coursive et il est allé valdinguer contre le bastingage. Il s'y est agrippé de toutes ses forces. T'imagines les paquets de flotte. La mer dessous, la mer dessus, plein la gueule, quoi. Je priais, qu'il m'a dit. C'est le capitaine qui est venu le sauver. Ça a dû le calmer pour de bon. Penses-tu, toujours volontaire, quel que soit le temps. Un vrai fou. Pas fou, non. Je crois que la mer, ça le terrorisait. Qu'il en avait eu la trouille le premier jour où il s'est embarqué. Alors, il a foncé dedans pour la surmonter. Abdul avala une gorgée de bière, pensif. Puis il reprit. On est comme ça dans la vie, non ? Il y a un truc qui nous fait peur et on fonce dedans. Dans la peur, je veux dire. Tête baissée, tu crois pas ? Diamantis ne répondit pas. Tu l'as revu, ce type ?
Ouais.
5 ou 6 ans après, je suis retombé sur lui à Dakar. Il racontait sa tempête dans un boui-boui du port, juste avant d'embarquer pour Callao, au Chili. Il minimisait ce qu'il avait vécu, genre « Ouais, les gars, tel que je vous le dis, à 12 mètres au-dessus de l'eau, et la vague, elle est venue se briser sur le pont à mes pieds, balayant le mât du radar. Mais vous pouvez me croire, c'était pas la grande tempête que ça pourrait être la dernière. »
Et il navigue toujours ?
À la retraite, maintenant. Paraît-il, il vit près de Galway. Il cultive son petit lopin de terre et rigole pas. Il a plus foutu les pieds sur un bateau, même pas une barque. Ils se turent et burent en silence un long moment. La pluie continuait de marteler le pont de temps en temps, le tonnerre craquait toujours aussi violent, l'orage les unissait. Comme en mer, la tempête soude l'équipage. Aucun marin ne raconte jamais à sa famille ces moments-là, ni par lettre, ni de retour à la maison, pour ne pas inquiéter, parce que c'est irracontable. La tempête n'existe pas, pas plus que les marins une fois en mer. La seule réalité humaine des hommes, c'est la terre. D'ailleurs, on ne connaît et on ne connaîtra de marins qu'à terre, à moins de s'embarquer un jour à bord d'un cargo. Diamantis se souvenait que quelques mois après le naufrage du Marie Stella, alors qu'il regardait les informations à la télé, un commentaire lui avait fait dresser l'oreille. On voyait des images des dégâts causés par les intempéries en Angleterre. Il y avait eu 6 morts. Mais, avait rassuré le journaliste, tout danger est écarté. La tempête a quitté les côtes pour aller se perdre au large. Au large. De toutes les côtes. Des milliers d'hommes n'avaient aucune existence, même pour les femmes de marins. Leur mari n'avait de réalité qu'à son retour. Dans leur lit. Diamantis leva les yeux. « Et toi, t'as connu la grande frousse aussi ?»«
Oui, bien sûr. Abdulaziz en avait connu, des tempêtes, il pouvait en raconter aussi. »
Mais le souvenir qui lui venait à l'esprit n'avait rien à voir avec la trouille. Il était lié à la honte. Celui d'un naufrage, mais dont la nature n'était pas responsable. Seule la cupidité des hommes. Un souvenir vieux de 20 ans.
Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague, et des vagues de dunes pour arrêter les vagues, et de vagues rochers que les marées dépassent et qui ont à jamais le cœur à marée basse. Avec infiniment de brumes à venir, avec le vent de l'Est, écoutez le tenir, le plat pays qui est le mien. Avec des cathédrales pour unique montagne, et de noirs clochers comme mâts de cocagne, où des diables en pierre décrochent les nuages, avec le fil des jours pour unique voyage, et des chemins de pluie pour unique bonsoir. Avec le vent d'ouest, écoutez le vouloir, le plat pays qui est le mien, avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu, avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité, avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu, avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner, avec le vent du nord qui vient s'écarteler, avec le vent du nord, écoutez-le craquer, le plat pays qui est le mien, avec de l'Italie qui descendrait l'Escaut, avec Frida la blonde quand elle devient Margot, quand les fils de novembre nous reviennent en mai, quand la plaine est fumante et tremble sous juillet, quand le vent est au rire, quand le vent est au blé, quand le vent est au sud, écoutez-le chanter, le plat pays qui est le mien.
Lecture en liberté, Denis Flagel.
Jean-Claude Izot, Les Marins perdus. Il n'était alors que second, sur le Cygnus, un pétrolier qui battait pavillon libérien. Une époque où l'Afrique du Sud, alors sous embargo international, manquait cruellement de pétrole. Le Cygnus, plein à ras-bord de brut iranien, avait déchargé sa cargaison à Port Elizabeth durant la nuit, puis il avait repris la mer par le cap de Bonne-Espérance, après avoir rempli ses cuves d'eau. Là, ils avaient attendu les vents, la houle, n'importe quel petit brin de tempête. Au sixième jour, ils avaient eu ce que cherchait le capitaine, un roulis de 20 degrés, un faible roulis pour un tel bateau. Le Cygnus était un navire de haute mer construit pour affronter les intempéries. Le capitaine ordonna de naviguer écoutille ouverte, puis, au lever du jour, d'ouvrir les vannes. L'équipage fut invité à préparer ses valises. On mit les canots de sauvetage à la mer et ils s'y embarquèrent, après avoir lancé des appels de détresse. Le Cygnus coula majestueusement, s'y refusant presque. Dommage. Ce fut le seul commentaire que s'accorda le capitaine. Ils ne dérivèrent pas longtemps, trois navires faisaient route vers eux. Ils n'avaient même pas attendu leur SOS. La position exacte du Cygnus leur avait été communiquée heure par heure. Tous trois étaient aussi sous pavillon libérien. Pour le compte de la flotte Tex Oil, comme Abdul l'apprit plus tard. Ils furent recueillis comme des héros. À l'exception d'un jeune mousse de 20 ans, Lucio, c'était sa première embauche. Il avait paniqué et s'était retrouvé à l'eau. Les vents avaient poussé les canots dans une direction opposée et personne n'avait pu le repêcher. C'est la compagnie d'assurance elle-même qui avait mis le marché dans les mains d'Abdulaziz. Il lui suffisait de conforter le témoignage du capitaine sur le naufrage du Cygnus. Il y gagnait une forte prime et de l'avancement. Des primes, il y en avait également pour les membres d'équipage. Certains, il le découvrit après, en étaient à leur troisième naufrage. Refuser, cela revenait à me mettre au banc de la marine marchande internationale. Tout le monde semblait être au courant de ces pratiques. Mais le coup à Diamantis, comment expliquer qu'il n'y avait pas de nappe de pétrole, rien? Quelle importance! La compagnie d'assurance était au cœur de la magouille. Cela pouvait intéresser qui? Et je vais te dire, Diamantis, dans l'affaire du Cygnus, non seulement l'assurance remboursa le bateau, mais aussi l'intégralité de la cargaison de brut iranien.
est assigné ? Demanda Diamantis sans aucune méchanceté. J'ai dégueulé, puis j'ai signé. Et j'ai encore dégueulé. J'ai dégueulé tous les jours pendant plus d'un mois. Tous les soirs, ça me remontait à la gorge. Il regarda Diamantis avec désespoir. Cette affaire l'écœurait encore aujourd'hui. La prime, ça nous a aidés à nous installer à Dakar, Céphée et moi. Plutôt confortablement, tu vois. Il m'aurait peut-être fallu 10 ans pour y arriver. Et tu sais encore comment c'est, difficile d'économiser. Il était devenu capitaine. Et je suis devenu capitaine, ouais. Sous le même pavillon, pour la même flotte. Puis, dès que j'ai pu, j'ai quitté Tex Oil. Diamantis se rappela que la première fois qu'il avait embarqué sous les ordres d'Abdoul, un marin, le chef des machines, lui avait dit « C'est un bon capitaine, il sait commander la manœuvre avec beaucoup d'expérience, il harcèle pas l'équipage et il mouille pas son froc devant l'armateur. » De ce faux naufrage, Abdoul avait appris à tenir tête. Il n'était pas de ceux qui accepteraient de couler un bateau. Il était maintenant de cette race qui n'abandonnait pas le navire. Il préférait même pourrir dessus, comme ici à Marseille. « Je vais te dire encore une chose, Diamantis. Tout ce que j'ai pu faire après, ça n'a jamais pu effacer cette saloperie. » Et par saloperie, j'entends aussi cet argent sale que j'ai empoché, ma promotion, tout ça, quoi. Arrive un moment où ce qu'on a fait de dégueulasse dans la vie, faut le payer. On paye que si on veut payer, répondit Diamantis. C'est ça que je crois, moi, rien d'autre. La terre entière est remplie de gens autant pourris les uns que les autres, c'en est plein les journaux. Plus t'es haut dans la hiérarchie, plus ton ardoise, elle est forcément cradingue. Tiens, et même notre armateur, ce fumier, et tu crois quoi? Que tout ce petit monde passe à la caisse pour payer ses dettes? Connerie, Abdoul, connerie. Tu comprends rien, Diamantis, dit Abdoul en se levant, tu comprends rien. Il était au bord des larmes. Céphée est en train de me quitter. Ma vie s'écroule. Tout s'écroule, putain de bon Dieu. C'est ça que je paye ici, sur cette saloperie de tas de tôles pourries. Il partit sans finir sa bière, les épaules basses, comme écrasé par un fardeau trop lourd. Ce n'était plus le même homme que celui qui s'était adressé à l'équipage. En arrangeant le départ des hommes, il avait limité les dégâts pour chacun d'eux. Il était allé jusqu'au bout de ce qu'il entendait par être capitaine. Maintenant, l'Aldébaran pouvait couler, et lui avec. Mais Diamantis était resté. Et ni l'un ni l'autre ne savait encore si cela était une bonne chose, pour l'un comme pour l'autre. La pluie avait cessé, il était 5h10. Place de l'Opéra, la porte du Habana s'ouvrit et Nedim fut jeté sur le trottoir par un noir immense tout en muscles. La porte se referma. Nedim n'eut pas la force d'aller réclamer son sac, ni le courage. Dès qu'il entra au Habana, Nedim sut qu'il s'était fait baiser la gueule. Le lieu était exigu, un comptoir sur la gauche, deux filles assises sur de hauts tabourets bavardaient avec le barman, un gros moustachu au crâne rasé. Devant eux, une petite piste de danse où se trémoussaient 3 couples, tout autour, 10 de boxes. Il repéra un couple enlacé, plus intime, comme avait dit Lala, on ne pouvait faire mieux, mais il devait l'admettre, la musique était pas mal du tout. Il crut reconnaître la voix chaude de Ruben Blades. Côté rythme, Marseille
avec l'oreille. Nedim se laissa conduire par Lala et Gabi vers l'un des box. Il se demanda comment il allait pouvoir se tirer de là. Enfin, il le savait, il fallait consommer. Des bars comme ça, des bars américains, il en avait fréquenté pas mal. Jamais seul, toujours à deux ou trois. En fin de nuit d'escale, après avoir tiré un bon coup. Le dernier verre avant de reprendre la mer. Les filles ne venaient jamais les faire chier. « Tu nous offres à boire ?» demanda Lala. « Gin tonic pour moi. » Il avait besoin de ça, pour reprendre ses esprits. « Tu bois un verre et tu te casses, » il dit. Lala s'éclipsa vers le comptoir, il ne put s'empêcher de la suivre des yeux. Cette fille, elle balançait vachement bien. Leur étreinte tout à l'heure au perroquet bleu lui revint à l'esprit. Son corps en redemandait. « Elle est mignonne, hein ?» Gabi lui faisait face un sourire aux lèvres. « Vous êtes des putes, hein, c'est ça ?»« Des putes ?» reprit Gabi. « Dis, tu nous as regardés, Nedim, hein ? Tu crois ça, toi, que tu pourrais aligner des bifetons et qu'on écarterait les cuisses, hein, Nedim ?» Elle avait penché son visage vers lui. Il sentit son odeur forte, musquée. Une odeur qui s'insinua en lui, dans son sang. Comme un verre de rhum avalé cul sec. Ça lui fit chaud sous la peau. « Elle doit être bonne au lit », il se dit, mais sans la regarder de peur qu'elle ne lise cette pensée dans ses yeux. Et il l'imagina, s'offrant à lui. « Alors vous êtes quoi ?» Il avait allumé une clope et, soufflant la fumée, il leva la tête vers elle. Son regard effleura la cicatrice de Gabi, près de l'œil. Cela faisait une étoile. Vraiment, il aurait aimé savoir comment elle avait récolté ça. Pourquoi ? Il ne pouvait en détacher ses yeux. Sa cicatrice, loin de l'enlaidir, rehaussait la beauté de son visage. Et Nedim, ça le subjuguait, ça. Elle le laissa faire, la dévisager ainsi, aussi effrontément. Puis elle passa sa main dans ses cheveux qu'elle portait très courts et sourit. « Des amis, Nedim. On est des amis, » murmura-t-elle, ses lèvres presque sur les siennes, rien d'autre. « Va pas croire autre chose, d'accord ? On fait la fête, voilà, une nuit de fête, et c'est toi qui régales, mon beau. » Elle fit glisser le dos de ses doigts sur sa joue. Ils étaient froids. Elle lui sourit à nouveau tout aussi froidement. Il n'eut plus aucune envie de se retrouver avec elle dans un lit, ni ailleurs. Lala vint se glisser contre lui et passa son bras autour de ses épaules. Sa cuisse se pressa contre la sienne et dans son corps, Nedim sentit la température se réchauffer de plusieurs degrés. « C'est trop cool ici, non ? T'aimes bien ?» Il voulut répondre un truc méchant, mais l'arrivée du barman le laissa sans voix. Sur le plateau, il y avait un gin tonic, mais aussi une bouteille de champagne et de verre. « C'est vous qui avez commandé ça ?»« On avait une petite soif, » répliqua Lala en laissant aller sa tête contre la sienne. Elle trempa à peine ses lèvres dans la coupe. « Tu veux danser ?» Les belles résolutions de Nedim s'envolèrent dès qu'elle fut dans ses bras. Son corps se colla au sien, lui caressant la nuque du bout de ses doigts. Il se sentait heureux avec cette fille. Une sensation qu'il n'avait jamais éprouvée. Pourtant, il ne cessait de se dire qu'elle bossait et que cela aurait pu être un autre que lui. Voilà donc pour ce soir la suite de ce roman de Jean-Claude Izot, Les Marins perdus, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.